En 2018, la production d'électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 41% du total des émissions dues à la combustion d'énergie, puis viennent les transports et l'industrie. Selon le rapport du GIEC, le secteur du bâtiment correspond à une augmentation des émissions mondiales de CO2 de 50% entre 1990 et 2019, alors qu'on a une augmentation en demande d'électricité de 161%. C'est énorme. Donc d'un côté, nous avons une forte demande en consommation d'électricité et en même temps, on nous demande d'être plus responsables dans notre consommation, justement par rapport au changement climatique.
Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche.
Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute! Nous allons voir aujourd'hui avec Olivier Corradi comment évaluer notre empreinte carbone, en particulier en électricité, grâce à Electricity Map. Olivier a étudié en France, notamment à Centrale Supélec et au Danemark. Il a suivi un parcours riche en expérience, d'abord chez IBM à Zurich, sur une énergie plus intelligente, puis chez Google en tant qu'analyste de qualité de produits. En 2016, il a créé Tomorrow et Electricity Map, que nous allons découvrir dans l'interview d'aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer l'application d'Electricity Map ? Comment est-ce que l'idée t'est venue ? Comment ça marche ?
Alors, pour pouvoir comprendre vraiment la perspective d'Electricity Map, il faut poser un petit peu le problème et comprendre les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, il faut savoir tout d'abord que le problème du changement climatique est un problème très préoccupant. Je ne vais pas revenir sur les détails du rapport du GIEC, etc. Et quand on réfléchit en fait aux solutions du changement climatique, il faut comprendre que la majorité des gaz à effet de serre qui sont émis viennent en fait du secteur de l'énergie. Et ce secteur de l'énergie, c'est quoi ? C'est au final du pétrole, du gaz, du charbon, qui sont utilisés majoritairement dans le transport, dans l'industrie et pour l'électricité. Et si on veut vraiment décarboner cette énergie, une grande solution qui est mise en avant, c'est d'électrifier tous les usages. On va parler de chauffage électrique, d'avions électriques, de bateaux électriques, de tout ce que vous voulez d'électrique. Et donc la grande question, c'est, mais cette électricité, au final, est-ce qu'elle est réellement verte ? Parce qu'une voiture électrique qui est chargée, par exemple en Pologne, où l'électricité est majoritairement à base de charbon, c'est peut-être pas forcément une chose meilleure. Et donc, dans ce challenge-là, s'est posé en fait une sorte d'évidence qui était de cartographier les émissions de carbone du système électrique pour dire, si on veut électrifier les usages, dans ce cas, il faut qu'on le fasse de manière intelligente. Donc, Electricity Map, d'ailleurs, le nom vient de là, tout simplement, c'est de cartographier le système d'électricité. Et au cœur de cette préoccupation, il y avait une problématique majeure qui était de savoir si on électrifie ou on décarbonise le système électrique avec des éoliennes et des panneaux solaires, on va créer de l'intermittence dans le système parce que le vent ne souffle pas tout le temps et le soleil ne brille pas tout le temps. Et donc la question c'est, est-ce que le système est vert ou décarboné à toutes les heures de l'année ? Et essayer de comprendre un petit peu ces dynamiques. Et c'est pour ça qu'Electricity Map... en fait, à ajouter tout de suite une composante temps réel pour pouvoir comprendre ces dynamiques. Donc, en deux mots, Electricity Map, c'est la cartographie mondiale des émissions de carbone du système électrique, en temps réel également. Et là où on accompagne les entreprises, c'est sur leur comptabilité carbone dans un premier temps sur l'électricité et dans un deuxième temps dans le développement d'offres produits qui vont intégrer cette composante temps réel de l'électricité. Par exemple, consommer l'électricité au moment où elle est verte, permettre aux voitures électriques de charger au moment où l'électricité est verte plutôt que de la charger au moment où elle n'est pas verte, tout simplement.
D'accord. Alors, justement, comment est-ce que vous collectez les données ? À quelle fréquence ?
Donc, vous avez les données qui sont publiées par exemple en France, RTE, qui est responsable de l'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité à tout instant. Et cet institut publie, cet organisme publie des informations sur exactement ce qu'on appelle le mix électrique. Donc, combien est-ce que en France on produit d'éolien, combien est-ce qu'on va produire d'électricité à base de charbon. Nous, on s'intègre avec tous les gestionnaires de transport d'électricité dans le monde. on fait pas ça tout seul, on a une communauté de personnes, car le projet est open source, qui vont nous aider à collecter ces données. Et ce qu'on fait par-dessus, c'est qu'on a une couche technique qu'on appelle le flow tracing, qui en fait fait une analyse de flux sur le système électrique. Il faut savoir que si vous voulez savoir d'où provient votre électricité en France, il va falloir regarder comment est-ce qu'elle est produite localement, mais il va aussi falloir regarder est-ce qu'elle est importée de pays voisins, et donc du coup, comment est-ce qu'elle est produite dans ces pays voisins, ces pays voisins qui peuvent aussi potentiellement importer d'un autre pays voisin, donc vous avez toute la chaîne des imports qui doit être prise en compte. Donc on récupère toutes ces données-là, on fait cette analyse de flux, et une fois qu'on a l'analyse de flux qui est faite, on a une couche de carbone par-dessus qui vous permet de dire, voilà, pour chaque kilowattheure produit avec du nucléaire, par exemple, voici les émissions typiques qui vont avoir lieu sur le cycle de vie entier. Et tout ce process qui paraît long et compliqué pour répondre à une question très simple qui est de dire à tel instant et à tel endroit, si je consomme un kilowattheure d'électricité, combien de gaz à effet de serre vais-je être responsable en réalité dans ce process. Voilà.
Alors, on comprend bien que c'est une carte représentant une carte de consommation d'électricité par pays en Europe, mais finalement, comment on peut sauver le monde grâce à cette application? Alors, j'ai cru comprendre que c'était une application open source. Ça veut dire, est-ce que moi, par exemple, je peux y contribuer d'une certaine manière en fournissant des données, en codant? Comment ça se passe?
Il faut savoir que chez Electricity Map, on a ce qu'on appelle un repository chez GitHub qui est open source. Donc, c'est une base de code qui est open source et qui va représenter notre interface avec la communauté. Ça s'articule en plusieurs parties. Donc, il y a l'application qui elle-même est open source. Donc, nous avons des personnes qui vont nous aider à améliorer l'application, à résoudre certains bugs, mais aussi à faire des traductions. Je n'ai plus de tête le nombre de langues dans lesquelles Electricity Map a été traduite, mais je sais qu'un jour, quelqu'un a débarqué dans le monde open source et nous a dit, voilà, j'ai construit un petit système de traduction, maintenant, tout le monde va pouvoir contribuer avec leur traduction dans leur propre langue, ce qui derrière a créé un effet boule de neige, et maintenant, je pense qu'on a une 20-25 traductions différentes. Donc, on a l'application, les traductions, les bugs, mais on va aussi avoir la collecte des données, qui est open source, qui est d'ailleurs réutilisé par d'autres acteurs dans le monde énergétique. Et finalement, il va y avoir les configurations. Donc, par exemple, les facteurs d'émissions carbone sont aussi open source parce que ça nous permet d'avoir une transparence vis-à-vis de notre communauté. Donc ça, c'est un petit peu la manière dans laquelle si vous avez une connaissance dans ce domaine-là ou si vous savez coder, les deux ne sont pas forcément, nécessaires, mais il faut un des deux. Vous pouvez aller sur notre site web et vous allez voir un petit peu les manières dont vous pouvez nous filer un coup de main.
D'accord. Alors, après, j'avais vu dans ton parcours, tu es à la fois en France et au Danemark. Est-ce que tu vois vraiment une différence dans les applications, dans les prises de conscience par rapport notamment à l'usage avec d'Electricity Map ou par rapport aux États, comment ils s'impliquent?
Alors, ce qui est très intéressant... c'est de noter la différence stratégique en approvisionnement d'électricité des deux pays. Donc, d'un côté, vous avez la France avec un socle nucléaire très, très fort, qui, du coup, a fait un investissement moindre dans les énergies renouvelables parce qu'elle a une électricité déjà majoritairement décarbonée. On parle de plus de 80% de nucléaire en France. À côté de ça, un pays qui est le Danemark, qui a dit non au nucléaire et qui, après les crises pétrolières, a décidé d'avoir une stratégie d'indépendance aux énergies fossiles dans l'électricité et du coup a mis des taxes très fortes sur l'électricité. Il y a une électricité relativement chère au Danemark, même si le contexte actuel crée beaucoup de volatilité dans les prix. Mais ce qui fait que derrière, il y a eu un financement très très fort des énergies renouvelables, notamment l'éolien. Il faut savoir que le Danemark est relativement plat comme pays, entouré d'eau, donc il y a énormément de vent. Et la deuxième situation un petit peu exceptionnelle du Danemark, c'est que c'est un pays très, très bien interconnecté avec des pays qui ont un approvisionnement stable en électricité. Norvège et Suède essentiellement. Et en Norvège, vous avez quasiment 100% d'énergie hydraulique à travers les montagnes. Et en Suède, vous avez un mix hydraulique-nucléaire. Donc, ce qui fait qu'au Danemark, quand le vent ne souffle pas, on peut avoir, un soutien des voisins pour approvisionner l'énergie. Et au moment où il y a du vent, effectivement, il y a un surplus et donc le pays exporte majoritairement sur les autres pays. Donc, deux stratégies complètement différentes. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a sûrement un des rares exemples au monde avec le Danemark en termes j'ai envie de dire presque du champion de la pénétration de l'éolien dans un système électrique où c'est un des premiers pays à se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire de tourner à 50% d'éolien par moment ou même plus. Donc il y a pas mal de conclusions à en tirer, mais en tout cas on a un gouvernement qui est, disons, très 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 focalisé sur les énergies renouvelables, un gestionnaire de transport d'électricité très digitalisé qui a compris que le digital va beaucoup les aider, que le machine learning est très important pour gérer toute l'intermittence et la volatilité. Alors qu'en France, disons que c'est des problèmes qui ont été moins, qui sont moins d'actualité, tout simplement on a un socle un peu plus stable. Voilà, c'est à peu près ce que nous on a vu pour l'instant de notre point de vue.
Alors justement, pour parler machine learning, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les algorithmes utilisés pour faire les prédictions de consommation ? Je suppose que vous avez appris à partir de données passées. Est-ce qu'il y a des bases de données publiques sur lesquelles vous pouvez vous entraîner ? Est-ce que vous utilisez par exemple ce qu'on appelle les séries temporelles ? Et puis aussi, j'ai bien compris qu'il y avait une notion de temps réel. Donc, quels sont les enjeux en fait derrière à respecter ?
Oui, alors nous avons effectivement entraîné nos algorithmes sur les jeux de données qui sont publiquement accessibles, notamment ceux qui viennent de RTE, en sachant qu'on a une complexité ajoutée qui est justement ces interconnecteurs entre toutes les différentes régions qui rendent le problème un peu plus complexe. Une autre complexité qu'on s'est, disons, une limitation qu'on s'est imposée assez rapidement, c'est qu'il fallait que notre système de prévision puisse fonctionner quel que soit le pays dans lequel vous vivez ou le pays qu'on considère. Tout simplement parce que chez Electricitymap, on veut avoir un système très scalable et donc ça ne va pas fonctionner pour nous en fait, d'ajuster le forecast pour le Danemark comparé à la prévision pour la France ou aux États-Unis ou un autre endroit. Donc tout d'abord, il a fallu mettre à plat toutes les données d'entrée. Donc les données d'entrée, on a tout un système de contrôle de qualité de données sur la donnée qui va rentrer dans le système, données électriques. La deuxième composante, c'est pour pouvoir faire des prédictions, il va nous falloir des facteurs explicatifs. Et ces facteurs explicatifs, ou ces features, dans le langage un peu machine learning, elles vont venir essentiellement de la météo, parce que dans un système où il y a beaucoup de pénétration renouvelable, si jamais vous voulez prédire la quantité de carbone dans le système, bon, au final, ça va dépendre beaucoup de la météo. Donc, il nous fallait un provider de météo, un fournisseur de météo. J'utilise beaucoup de mots en anglais, j'en excuse. Il nous fallait un fournisseur de données météo qui soit international. Et on utilise le système GFS de NOAA aux États-Unis, qui en fait nous donne des données sur une grille d'un quart de degré latitude, longitude sur le monde entier, qui sont d'ailleurs aussi les données que vous pouvez voir sur Electricitymap quand vous activez la couche météo. Et toutes ces données rentrent dans notre système et ensuite on va avoir un système de sélection de features qui va automatiquement choisir quels sont les facteurs explicatifs les plus intéressants. Donc par exemple, pour faire une prévision sur le Danemark, on va préparer une liste de candidats, de features candidates. Je crois de mémoire qu'on en a à peu près 200 ou 300 qui vont aller donc il y a toutes les données météo du Danemark, des voisins un peu plus éloignés parce qu'on sait qu'il y a des influences un petit peu de système électrique un peu plus éloignés et dans leurs conditions météo qui vont influencer le Danemark. On a des données marché. On récupère aussi en extérieur des forecasts publics. Vous avez RTE qui publie des prévisions par exemple du système électrique à 24 heures. Donc on récupère toutes ces données. Et ensuite, on utilise des modèles qui se basent sur des régularisations. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une régularisation L1 qui va nous permettre de choisir, en réalité, quelles sont les features candidates qui vont le plus contribuer à une prédiction. Et vu que le système électrique est très structuré, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir comme ça du jour au lendemain, d'un seul coup, la consommation d'électricité qui va doubler. Il y a des patterns très, très réguliers. C'est un problème de machine learning qui est très structuré comparé par exemple à l'analyse d'image qui est beaucoup plus chaotique si je puisse me permettre le terme.
Tout à fait.
Ce qui veut dire que on peut utiliser des modèles beaucoup plus robustes, beaucoup plus stables. Nous, on n'utilise pas du deep learning justement pour ces raisons-là. Le deep learning va être très bien quand on a des données qui sont très peu structurées. Mais là, on a tellement de structures qu'on a envie presque d'imposer cette structure au système pour être sûr que derrière, on a les prévisions qui sont robustes et qui ne vont pas partir dans toutes les directions.
Et en plus,
c'est un très vaste sujet.
En plus, il y a un caractère explicable de ce que tu nous disais avec cette histoire de connaître en fait, les variables que vous utilisez, de savoir que c'est de la météo, etc. Alors justement, c'est quand même des données qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes ordres de grandeur. Donc, c'est peut-être ça dont tu parlais avec la régularisation L1. C'est une normalisation, c'est-à-dire qu'on essaye de ramener tous ces chiffres sur le même ordre de grandeur pour pas qu'il y ait des pics.
Alors, il y a la normalisation ou la standardisation qui est de ramener toutes ces features, disons, à une échelle commune pour pouvoir correctement les pondérer et pouvoir comparer, au final, une unité de feature, de combien est-ce qu'elle va contribuer à la performance du modèle par rapport à une autre. Et l'autre partie après qui est intéressante dans la pénalisation L1, c'est qu'elle va avoir tendance à vouloir pousser toutes les features à aller vers un score de zéro. C'est-à-dire qu'une feature qui contribue un tout petit peu au système va être très vite pénalisée comparée à si elle ne contribuait pas du tout ou si au contraire elle contribuait, ce qui a un effet au final de sélection naturelle par rapport à une autre pénalisation type L2 qui, elle, va pénaliser les valeurs extrêmes et qui ne va pas du tout pénaliser les petites valeurs de la même manière.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça qu'assez naturellement, on se retrouve à filtrer les candidates parce qu'il y a beaucoup de features qui se retrouvent avec une influence de zéro qu'on peut ensuite enlever.
D'accord. Alors là, on est parti sur un apprentissage avec des données du passé, des données voilà, de RTE, de la vie avant le Covid, je présume. Et on a beaucoup entendu parler que lors de la pandémie, nos modes de vie ont évolué, notamment pendant les périodes de confinement, on était beaucoup plus chez soi, donc notre consommation d'électricité n'était pas la même. Est-ce que, avec ton équipe, tu as pu observer quelque chose en particulier dans cette donnée ? Donc, quand tes algorithmes sont entraînés sur un certain mode de consommation, je suppose que le résultat est complètement aberrant quand on change de mode de consommation.
Absolument. Alors, ce que nous, on fait, c'est qu'on entraîne nos algorithmes. Alors déjà, ce qui est important, c'est de parler de l'horizon de prédiction que nous considérons. C'est-à-dire que nous, on considère des prédictions à 24 heures en avance, ce qui veut dire qu'on a une belle manière d'éviter le problème que tu mentionnes, qui est tout simplement de réentraîner les modèles suffisamment à une fréquence suffisamment haute. Donc, le moment où on a eu la pandémie, on a effectivement vu des variations et des changements dans la structure du système électrique. Mais en fait, très vite, on a pu réentraîner les modèles qui ont appris cette nouvelle structure. Et derrière, on a pu continuer à agir. Mais effectivement, il y a eu des changements. J'ai plus les détails exactement pour vous expliquer la nature de ces changements. Mais il a fallu réentraîner nos modèles pour qu'ils restent pertinents.
D'accord. Alors, pour revenir sur un sujet un peu plus léger et avec une curiosité un peu plus personnelle, on voit de plus en plus fleurir les écrans lumineux qui remplacent les panneaux publicitaires déroulants. Maintenant, on a comme des mini-télé dans la ville, même dans les arrêts de bus. Et avec des amis, je me posais cette question, quelle est leur utilité ? Enfin, on a déjà des publicités sur les smartphones, on a déjà la possibilité de transporter une sorte de micro-ordinateur dans notre poche. À quoi ça sert d'avoir ce genre d'écran lumineux ? Est-ce que on a la possibilité de mesurer la quantité d'électricité que cela consomme, l'impact niveau carbone de ce genre d'objet ? Et par exemple, si on s'était posé la question, j'aimerais bien savoir quel dispositif... tel dispositif, combien il consomme, est-ce que ce serait possible de le savoir avec Electricity Map ?
Alors, Electricity Map ne regarde pas la quantité de consommation actuellement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, si vous consommez une unité, alors combien est-ce qu'elle émettrait ? Donc, c'est, disons, conditionnel par unité consommée. Mm-hmm. Donc, c'est, disons, vous ne pouvez pas, pour l'instant, avoir accès à votre consommation totale d'électricité et les émissions totales de carbone. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé sur un autre produit il y a quelques années qui s'appelait North. Et l'idée de ce produit, c'était d'être un calculateur temps réel carbone qui vous permet de vous dire quelle est votre empreinte carbone personnelle. Mm-hmm. Et dans le cadre de ce projet-là, on se connectait au compteur électrique, par exemple votre Linky à la maison ou d'autres compteurs, et on le connectait avec Electricity Map. Et là, d'un seul coup, on pouvait vous dire, quand vous avez lancé votre machine à laver, quelle est l'empreinte carbone ? Et ce qui était intéressant quand on s'est penché sur cette question, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'usages informatiques où en fait la majorité des empreintes carbone vont venir de leur utilisation quotidienne. Par exemple, le routeur Wi-Fi que vous avez chez vous, à tous les coups, son empreinte carbone sur son cycle de vie est dominée par la consommation d'électricité durant sa vie. C'est pas pour rien d'ailleurs que Apple a des objectifs qui sont sur ce qu'on appelle le scope 3. Donc, c'est-à-dire, c'est sur leur chaîne de valeur et en amont et en aval. Et ils se rendent compte qu'en fait, il y a une grosse... Je vous invite d'ailleurs à regarder le rapport annuel d'Apple dans leur partie sustainability. Vous allez vous rendre compte que je ne sais plus si c'est un quart, mais il y a une partie vraiment énorme de leur empreinte carbone qui en fait vient de tous les MacBooks qui tournent et qui consomment de l'électricité. Donc pour en revenir aux écrans, effectivement, on a le problème que avec de la technologie qui est de moins en moins chère et de plus en plus accessible, on se retrouve avec un effet rebond qui est de mettre au final plein de panneaux lumineux à droite à gauche qui consomment plus d'électricité. Et donc l'enjeu, disons, qu'on a en tant qu'humanité dans le futur, c'est de faire en sorte que quand on a des nouveaux usages, ils n'augmentent pas les émissions totales. Et c'est-à-dire qu'un nouvel usage, il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est pour ça qu'il faut absolument limiter, disons, les usages par rapport à leurs émissions carbone. Et c'est tout simplement, c'est là où une taxe carbone, en fait, est très intelligente parce qu'elle vous permet d'avoir une innovation technologique qui, derrière, se répercute, enfin, qui a comme conséquence une baisse totale des émissions et pas, justement, ce côté pervers de l'usage. L'exemple très simple pour comprendre ce genre de choses, c'est par exemple quand vous avez un moteur dans une voiture qui devient plus efficace. Ce qui arrive en général, c'est que du coup, on se permet d'avoir une voiture plus grande, plus lourde, qui au final utilise le même fuel. Ce qu'il faudrait faire à la place, c'est au moment où on a l'innovation technologique, on rajoute une taxe carbone, donc le prix pour le consommateur reste exactement le même, on n'a pas de rebond et on reste au final avec le même service, la même voiture, mais avec moins d'émissions, sans qu'on fasse une voiture plus grande. Voilà.
D'accord. Et puis, tu nous as parlé donc dans la dernière application et puis dans l'Electricity Map de la dimension temps réel. Quelles contraintes est-ce que cela ajoute en fait dans la réalisation des algorithmes ?
Alors, il y a une contrainte majeure sur le temps réel qui est que les données explicatives que nous utilisons pour faire ces prédictions ne sont pas toutes disponibles au même moment. Donc, par exemple, une des données explicatives qui est très puissante pour faire une prédiction sur les 24 prochaines heures, c'est le prix du marché d'électricité qui, dans beaucoup de marchés européens, est défini le jour à l'avance pour les prochaines 24 heures. Donc, le problème, c'est que si jamais ce prix n'a pas encore été défini, vous n'allez pas pouvoir faire une prédiction. Et donc, il y a ce challenge-là qui est de savoir, en fonction du moment auquel vous faites la prédiction, est-ce que la variable explicative, en fait, est disponible. Et ça, dans le temps réel, effectivement, il y a un challenge à ce niveau-là, surtout que les données qu'on récupère en entrée sont de qualité très variable et ça nous arrive très, très, très souvent qu'on ait un fournisseur de données qui, d'un seul coup, interrompt son flux, etc. Mm-hmm. Donc, en fait, on a dû développer une couche de machine learning par-dessus qui nous permet, au final, d'estimer des variables manquantes pour ensuite pouvoir faire des prédictions. Et ça, c'est un challenge.
Très bien. Alors, avant de conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Electricity Map pour les mois à venir ?
Je pense que dans notre grande vision, c'est de cartographier vraiment tout le système électrique à la plus grande granularité temporelle et spatiale possible. Et quelque chose qui nous bloque énormément, c'est justement l'accès à la donnée. Donc, une chose qui pourrait être absolument fantastique, c'est si tous les opérateurs et les gestionnaires de réseaux dans le monde commençaient à ouvrir encore plus leurs données, ce qui serait bon pour nous, mais qui serait aussi bon pour tout un tas d'autres entrepreneurs et développeurs dans le domaine qui, d'un seul coup, pourraient avoir des nouvelles opportunités.
Ok, le message est passé, je l'espère. Et on arrive déjà à la dernière question de l'épisode qui est commune à tous les intervenants de la saison 4 sur le thème de l'environnement. On sait pour la plupart que la protection de l'environnement est affaire de tous, dans la mesure où la Terre est notre bateau commun, et si elle coule, nous coulons tous. Alors, Olivier, quel geste simple, accessible à tous et pourtant nécessaire pourrais-tu partager avec nous ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ?
Alors pour moi, un des gestes qui au final peut avoir le plus d'impact, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, avoir une bonne idée du système énergétique dans lequel nous vivons pour pouvoir voter de manière intelligente, parce que si on vote de manière intelligente, derrière on peut avoir un impact qui est énorme. Donc je laisse de côté les petits gestes qui sont un peu plus évidents, type passer à une alimentation moins carnée et prendre moins l'avion, qui sont clairement les gestes les plus efficaces, directs, pour décarboner notre empreinte carbone.
Éteindre son écran.
Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant. Éteindre son écran. Il y a quelque chose de très intéressant sur l'éducation, parce que le moment... En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer du temps sur Electricity Map et qui vont comprendre comment le système électrique fonctionne, gagner une intuition, et qui vont derrière pouvoir être plus éduqués pour prendre des meilleures décisions, pour en communiquer, en parler autour d'eux. Donc pour moi, s'il y a quelque chose de très important à faire, c'est de passer un petit peu de temps, que ce soit sur Electricity Map ou sur d'autres plateformes, pour comprendre un petit peu son empreinte carbone, comprendre comment le système énergétique fonctionne, comprendre le monde dans lequel nous vivons, parce qu'au final, ça nous rend des citoyens plus plus engagé et plus efficace, entre guillemets, pour contribuer à cette décarbonation.
Parfait. Eh bien, merci Olivier pour le temps que tu nous as consacré, pour toutes ces explications. Et on souhaite bien sûr un bel avenir au projet Electricity Map.
Merci.
Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/saison4-electricitymap. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous aider dans notre mission de rendre les enjeux de l'IA accessibles à tous. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site dans l'onglet Contact sur l'adresse www.horizon-ia.com. Nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous répondre. Avant de nous quitter, je vous laisse méditer sur une citation en lien avec l'électricité, une citation de Guglielmo Ferrero, qui était un historien italien du début du XXe siècle. Avec les machines à vapeur et avec l'électricité, l'insomnie du monde a commencé. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à jeudi prochain.